Je vais conclure très brièvement sur un air de musique ré, ré, do, mi. Je ne suis pas musicienne, mais pour que notre sigle, Réseau de recherche sur les douleurs médicalement inexpliquées de l'enfant et de l'adolescent, soit quelque chose qui prenne corps et essaye de vous rassembler. Alors, vous avez vu, on dit que c'est psy, mais en même temps, on dit qu'ils n'ont pas grand-chose sur le plan psychologique ou sur le plan psychopathologique, c'est ce qu'a résumé Bernard Gold, c'est-à-dire comment essayer de surmonter ce paradoxe. Eh bien, il faut des modèles complexes qui prennent en compte différents niveaux de vulnérabilité, et notamment le subtexte. Ça m'a vraiment plu. Je crois qu'on est vraiment dans le subtexte et qu'il faut qu'on arrive à modéliser la compréhension et les interventions. Quelques personnes ont essayé de mettre en place des modèles étiologiques, pas l'étiologie du pourquoi, mais l'étiologie du comment, c'est-à-dire des processus et non pas de la causalité, des troubles symptômes somatiques comme le schéma de Mayo, qui dit qu'à partir de sensations somatiques qui arrivent de sensations physiologiques normales, à ce moment-là, la connaissance de la maladie et de l'expérience de soi, de la famille, des autres ou des dimensions émotionnelles font que ces symptômes vont être interprétés comme des symptômes plutôt que comme des sensations. Et à partir de là, interviennent des facteurs de maintien, la dépression, l'anxiété, les réactions qui vont chroniciser ces symptômes et voire créer quelque chose de l'ordre du handicap. Donc on est plus dans des processus que dans des questions de psychopathologie fixées, qui correspondent d'une certaine manière à la description freudienne. Je voudrais revenir là-dessus, sur ce que disait Bernard Gols. Freud nous disait bien, dans les traces précoces qui vont pouvoir être réinterprétées, réactivées, il faut distinguer trois niveaux. Le premier niveau des traces, c'est des expériences précoces qui ne peuvent pas être transformées parce qu'elles sont survenues à une époque préverbale, à un moment où l'enfant n'était pas doté d'un appareil de secondarisation. Et donc ces traces que Freud a appelées le troisième inconscient en 1923, sont des choses que Freud a décrites dans l'hystérie de rétention. Ça a été très peu décrit, quelque chose qui est dans une forme de réminiscence. L'hystérique souffre de réminiscence, mais là de réminiscence non transformée. Donc je pense qu'on a ce premier type de trace dans les symptômes somatiques. Le deuxième type de trace dont on se souvient de manière pathologique, c'est les expériences traumatiques. Parce qu'elles sont effractantes et elles sont survenues en cas de situation traumatique. Ce sont ce que Freud a décrit comme les états hypnoïdes, avec un clivage de la conscience et des représentations qui sont séparées du reste du fonctionnement. C'est parce qu'elles sont traumatiques. Et les troisièmes, ces traces sont refoulées, elles ont été conscientes. Le travail de la conscience a été de les remettre en raison de leur caractère non représentable dans une autre partie inconsciente. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'hystérie de défense. Je reprends ce modèle de l'hystérie de Freud pour dire que probablement les patients qui ont des troubles d'inscription somatique fonctionnent dans un, dans deux ou dans trois de ces registres et que la combinaison de ces éléments est sûrement très importante pour essayer de comprendre pourquoi à un moment ces traces se réactivent de manière soit analogique, c'est-à-dire on a eu une douleur petit où on n'a pas été porté par sa mère, on va faire des chutes. Ou alors, il y a un refoulement plus symbolisé, une paralysie qui peut symboliser une angoisse de castration. Mais je pense que ces mécanismes que Freud avait décrits sont tout à fait pertinents et que le modèle des neurosciences et ce que nous avons décrit nous aident à reformaliser autrement ces modèles de processus. Si je reprends le schéma de Panksepp et Solms, ils nous disent qu'on a différents types de fonctionnement. Un, ce qu'on appelle les processus primaires ou les émotions qui mettent en jeu les afférences sous-corticales, ce qu'on a vu ce matin, et que de manière bottom-up, il y a un système d'apprentissage secondaire qui va, à force de répéter des expériences, s'organiser. Et puis, un système de transformation tertiaire, des cognitions tertiaires, va permettre par le jeu des influences top-down, c'est-à-dire ces jeux interactifs de ce qui monte en afférence et redescend, va permettre qu'à un moment, on puisse aussi situer l'hystérie de rétention, la réactivation d'expériences antérieures non transformées, parce qu'encore engrammées sous forme somatique. Les événements traumatiques qui restent vivants parce qu'ils n'ont pas pu être transformés de manière, on va dire, secondarisée. Et puis ces éléments trois, le troisième, ce qui au contraire va être refoulé dans quelque chose d'une représentation somatique. On voit aussi ici que le modèle de Panksepp de Panksepp et Solms, que je peux quasiment superposer avec ce qui a été dit ce matin sur les trois processus d'organisation de la douleur. On voit que ces deux modèles, ces trois modèles, celui de Freud, celui de Solms et celui qui nous a été présenté ce matin sur les trois modèles de fonctionnement de la douleur, sont tout à fait superposables et très cohérents. Alors, je n'ai pas eu le temps de le réactualiser avec le modèle de ce matin, mais c'est un travail que je vais faire. Alors, je vous propose cette synthèse-là. On a des réseaux sensoriels qui nous envoient des informations afférentes et puis des expériences précoces qui sont ou pas traumatiques, parce que tout le monde n'a pas des expériences traumatiques. Et donc, l'état du corps est traité ou représenté dans le système cognitif et neural qu'il sous-tend, de manière normale ou habituelle, mais sous l'influence d'événements déclenchants, qui peuvent être des événements internes, le simple fait d'avoir une puberté et un corps qui change, ou des événements externes qui renvoient ou pas aux expériences précoces, eh bien, ces représentations qui étaient dormantes vont être réactivées et parfois être biaisées et biaisées de manière erronée le traitement cognitif et neural des nouvelles informations. À ce moment-là, en dépendant parfois du style d'attachement ou d'autre chose, du refoulement, eh bien, cette expérience va être engrammée sous forme d'expérience subjective par un symptôme involontaire. Et je reprends ce qui a été dit ce matin, une transformation de cet après-midi de la souffrance en douleur. Quelque chose d'une souffrance antérieure, psychique, va être réactivée soit sous forme de symptômes involontaires, soit sous forme de manifestations sensorielles douloureuses. Mais c'est la lecture de la trace en fonction des événements, vous voyez, ou internes ou externes, qui va modifier. C'est ce subtexte-là qui va être modifié, et non pas le réseau dur, qui est le réseau des vraies perceptions sensorielles. L'intérêt d'avoir un tel modèle, c'est de modéliser les niveaux d'intervention. Ici, on peut faire des thérapeutiques symptomatiques. Et la kiné, elle ne marche peut-être pas, mais au moins, elle permet au patient de dire qu'on respecte son symptôme. Ici, on peut mettre le TENS, la TMS, c'est-à-dire, au fond, comment l'état du corps hein, qui va être représenté va être réactivé sous forme de sollicitation directement physique où la TMS va pouvoir resolliciter un certain nombre de réseaux corticaux. Là, on peut travailler sur l'intégration mnésique. S'il y a eu un certain nombre de difficultés dans l'histoire, on peut retravailler sur l'organisation des mémoires. Là, on peut faire un travail de guidance dans le fonctionnement familial. Ici, de la thérapie de l'attachement et là, une psychothérapie psychodynamique. Et vous voyez bien qu'en fonction de la prééminence d'un tel ou tel processus, on va proposer telle ou telle prise en charge. Et qu'est-ce que veut faire notre recherche? La recherche qu'on a faite, eh bien, elle a voulu étudier chaque niveau de ce processus. C'est pour ça qu'on a étudié le fonctionnement cognitif, le fonctionnement psychique, l'attachement, l'organisation familiale. On ne vous a pas présenté tous les résultats. On a mesuré aussi, évidemment, l'anxiété, la dépression, etc. Mais le but et l'ambition très grande de ce projet de recherche a été de s'inscrire dans un niveau pluridimensionnel et d'essayer de ne méconnaître aucun des niveaux possibles d'explication du symptôme. Alors, pour résumer, est-ce que les expériences précoces seraient réactivées, que l'enfant essaierait de les éviter? Eh bien, il y a une déactivation de l'attachement. On l'a bien vu, que ce qu'on a trouvé en priorité, c'est quelque chose d'un attachement déactivé, comme s'il y avait une nécessité de mettre à distance le lien ou les expériences précoces. Deuxième, donc là, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un évitement, oui, un déficit de mentalisation. On ne l'avait pas trouvé dans un premier temps. Et donc, quand on a eu plus de patients, oui, on a trouvé un déficit de mentalisation. Donc là, mon nom n'est plus actuel. L'organisation psychique, nous n'avons pas retrouvé un déficit de production de l'imaginaire, au contraire, une richesse de l'investissement pulsionnel. Donc vous voyez un investissement pulsionnel très important, mais qui doit être mis à distance par le système de désactivation de l'attachement. Enfin, le traitement cognitif, un certain nombre on ne vous les a pas présentés, mais on vous le dit, des expériences sur les adultes ont montré qu'il y avait peut-être des difficultés de flexibilité mentale et que là, le fait d'être happé par sa douleur était peut-être le produit d'un trouble de la flexibilité mentale. Eh bien, les résultats qu'on a au TMT, au petit bonhomme vert, nous ont montré que non, il n'y avait pas de déficit à la flexibilité mentale. Donc, la douleur pourrait être une réactivation des expériences précoces non symbolisées, mais possiblement, ou d'autres expériences. Et le but serait de ne pas se souvenir pour garder une homéostasie par construction de pattern d'évitement. On évite ce qui renvoie à ces expériences sous la co-occurrence de l'avance des compétences verbales. On a vu que ce sont des enfants qui ont un très bon niveau verbal, une organisation évitante et d'événements non neutres avec beaucoup de conflits environnementaux, non traumatiques. On n'a pas retrouvé d'abus sexuels, et d'ailleurs chez les enfants on n'en retrouve pas dans la littérature, mais des conflits qui renvoient à ces modes d'attachement. Les émotions et les pulsions agressives submergent les capacités de transformation. Les expériences douloureuses sont gardées dans le corps et le psychisme, car l'évitement n'est pas suffisant et la douleur remplace quelque chose de cette souffrance. Alors, les implications cliniques, c'est qu'un modèle complexe, ce sont des cadres complexes pour comprendre la douleur chronique chez l'enfant et l'adolescent, et l'incarnation de ce cadre par des consultations conjointes que nous incarnons, par exemple avec Brigitte, et qui sont faites dans plusieurs centres, ce que tu viens de nous présenter, Nicolas, pour mieux atteindre non pas les maladies nosographiques, mais bien les processus. Donc, avec cette conclusion, je nous invite tous à continuer cette réflexion avec des modèles qualitatifs, avec des modèles complexes de l'évaluation de ces troubles, pour arriver à mieux aller au cœur de ces processus de production de la douleur. Donc, bienvenue au Rérédomie, pour ceux qui veulent. Merci.